Et oui, cette douce musique, c'est celle de la Méridienne, auditeur, auditrice. Il est 11h sur Radio Campus Tours et ce jeudi 30 mai est un nouveau jour. Votre conscience écologique s'éveille depuis le début de la semaine puisque vous avez le privilège d'entendre sur nos ondes les podcasts réalisés par les étudiantes du Master 1 droit de l'environnement. Donc voilà, vous venez d'en entendre un qui parlait, j'espère que vous avez été attentifs, ça parlait du préjudice écologique, deux points, une avancée majeure du droit de l'environnement, point d'interrogation. Et comme on ne fait pas les choses à moitié sur Radio Campus, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir dans ce studio des invités qui vont nous parler, devinez quoi, eh bien, des îlots de chaleur urbains. Alors, les invités, c'est Corinne Manson, bonjour.
Bonjour madame.
Donc Corinne Manson, professeure des universités en droit public, spécialiste en droit de l'urbanisme. À côté de vous, Thomas Tuillier, qui est ici en sa qualité de membre du Conseil du développement de Tours Métropole Val-de-Loire et co-animateur de la commission aménagement du territoire. Bonjour.
Bonjour.
J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Victor.
Bonjour Victor.
Donc étudiant en Master 1, justement, vous avez commis le podcast sur les îlots de chaleur urbains. Donc pour le bien-être, disons, de nos auditeurs, vous avez même préparé une chronique pour leur rappeler ce que sont les îlots de chaleur urbains.
Une petite chronique pour expliquer ce que c'est. Et du coup, pour vraiment expliciter le phénomène, j'aimerais partir d'une expérience personnelle pour vraiment concrétiser la chose. Donc, c'est-à-dire que l'été dernier, j'étais employé aux espaces verts dans une commune et j'étais une fois affecté au nettoyage des trottoirs dans une rue, donc une rue à sens unique, étroite, où vous n'avez que de la place pour qu'il n'y ait qu'une seule voiture qui puisse passer, où il n'y avait ni végétation, ni vent du fait du sens de la rue. Et on était pris avec mon collègue entre les deux façades d'une maison. Et l'effet que ça a, c'est que vraiment, du coup, du fait de la disposition de la rue, on sent vraiment la chaleur qui pèse sur nous, ça donne littéralement l'impression d'être dans un four, et on sent l'effet concret que la chaleur ici a sur le corps. On sent mal, chaque mouvement devient fatigant, et par exemple, du coup, du fait de la chaleur, c'est d'autant plus fatigant, par exemple, pour travailler, vu qu'en l'occurrence, j'étais en train de travailler. Donc on sent vraiment ici que c'est des conditions qui affectent fortement le corps humain. Et donc ça, c'est pour vraiment rendre l'expérience, donner une petite expérience pour rendre la chose parlante. Mais après, si on veut une définition plus générale du phénomène, on peut partir de la définition qu'en donne le Conseil de développement, ce qu'on appelle le CODEF de Tours Métropole, dans son rapport sur la lutte contre la surchauffe urbaine. Et donc la surchauffe urbaine, ici, va être définie comme la conjonction de deux phénomènes, où d'un côté, on va avoir l'inconfort thermique des habitants, qui est lié à une sensibilité au chaud ou au froid des individus. Et de l'autre côté, on va voir justement ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain qui va générer un dôme d'air plus chaud couvrant la ville. Et donc concrètement, l'idée, c'est que les îlots de chaleur urbains, ça va limiter le rafraîchissement nocturne des espaces urbains par rapport aux espaces ruraux aux alentours de la ville. Donc par exemple, en ville, la nuit, on va descendre de minimum, mettons, à 25 degrés, alors qu'en campagne, à côté, on sera à 15 degrés. Donc on voit vraiment la différence et c'est ça l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Premièrement, on va voir la forme de la ville. Donc, par exemple, les rues Canyon, comme celle dont j'ai parlé pour illustrer tout à l'heure. On va voir les matériaux de construction, comme les toits en ardoise. On va voir le type de sol utilisé, comme la couleur foncée des sols et des murs, ou la forte minéralisation des espaces publics, comme ce qu'on explique dans notre podcast. Et ensuite, on va voir aussi, comme dernier facteur, l'énergie dépensée pour les besoins des activités humaines. Et donc, pour résumer, les îlots de chaleur urbains, ça va être un phénomène naturel. On parle tout simplement de chaleur en été, notamment lors des vagues de chaleur, lors des canicules, qui va être amplifié par les activités humaines. Là, on parle du changement climatique et par la disposition des villes. Là, c'est tous les facteurs que j'ai expliqués, comme les matériaux de construction, par exemple. Et si on veut prolonger sur l'aspect juridique, parce que c'est l'aspect qui nous intéresse, il va y avoir un problème lorsqu'on entend lutter contre les îlots de chaleur urbains par le droit, c'est que justement, ce dernier ne leur donne pas de définition. Là, je peux partir d'un petit exemple. Ça va être une circulaire d'instruction qui est du 23 juin 2023, donc de l'été dernier, qui avait été diffusée au préfet afin de permettre de préparer la gestion des vagues de chaleur. Et on voit que justement, ici, on n'emploie pas le terme, l'expression n'est pas utilisée, d'îlot de chaleur urbain. Alors que c'est une circulaire qui, normalement, a pour objectif, justement, de lutter contre ce phénomène. Et si on cherche ensuite dans la jurisprudence, donc c'est-à-dire ce que disent les juges, la manière dont ils appliquent la loi, là on voit qu'ils emploient l'expression d'îlot de chaleur urbain, mais elle n'est jamais définie, elle est utilisée de manière un petit peu vague, et donc c'est une notion qui n'a pas d'effet juridique précis, parce qu'elle ne renvoie pas à une catégorie juridique précise. Et donc au final, pour résumer un peu tout ce que je viens de dire, les îlots de chaleur urbain, c'est un phénomène qui ne sont pas encore bien pris en compte par le droit, et donc ça ne facilite pas sa mise en place de réglementations précises permettant de lutter contre ce phénomène.
Merci Victor Perrin, étudiant en Master 1 Droit de l'Environnement, pour cette chronique qui rappelle à nos auditeurs ce que sont les îlots de chaleur urbain, et ça fait émerger des questions que vous avez, que vous souhaitez poser à nos deux invités.
Tout d'abord, la première question qui m'est venue à l'esprit, donc je ne sais pas qui voudra répondre, c'est que les îlots de chaleur urbain, est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà avant mais qui est amplifié par le changement climatique ?
C'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui existe finalement depuis très longtemps. Si on prend les expériences de canicules qui ont pu avoir lieu en France, dès qu'il y a une canicule, il y a un phénomène d'îlot de chaleur urbain qui s'installe dans la ville. Donc ce n'est pas nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est les conséquences du changement climatique et donc l'amplification de ce phénomène de surchauffe urbaine, l'augmentation plus précisément des canicules, des épisodes de chaleur intense au sein des villes en particulier, et donc l'augmentation, l'amplification de ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc aujourd'hui, vivre en ville, c'est plus difficile qu'avant, et demain, vivre en ville, potentiellement, ce sera encore plus dur.
Ok. Et donc, du coup, moi, j'aimerais revenir sur le manque de définition juridique que je viens d'évoquer. Et à votre avis, est-ce qu'il y a une raison pour ça et quels effets ça peut avoir, ce manque de définition ?
Alors, vous avez tout à fait raison d'indiquer qu'aujourd'hui, le terme îlot de chaleur n'apparaît pas dans le code de l'urbanisme qui précise en réalité donc les conditions d'application des règles relatives aux constructions. Ça n'apparaît pas parce que aujourd'hui on a des règles très précises encore en matière d'utilisation et d'occupation des sols. Et en fait, la notion d'îlot de chaleur renvoie, et vous l'avez très bien expliqué, à une pluralité de facteurs qui vont en fait faire qu'on n'a pas beaucoup de verdure, qu'on a des matériaux d'une certaine couleur, etc. Et pour le droit, il est extrêmement difficile d'aborder une notion plurifactorielle. Et mettre aujourd'hui en place des règles spécifiques aux îlots de chaleur reviendrait à considérer que doivent s'appliquer à la fois des règles relatives à l'implantation des bâtiments, par rapport à l'implantation de la végétation, par rapport à la présence de l'eau, par rapport, vous l'avez dit, à la largeur des rues, etc. Et je pense, mais Thomas, tu peux, si tu veux bien préciser, pour moi, ça va être compliqué. Alors, est-ce que ça va évoluer ? Peut-être, mais je pense qu'il va y avoir une difficulté juridique.
Effectivement, la notion donc en tant que telle n'existe pas, mais finalement, les outils peuvent être mobilisés afin de traiter ce problème. Et donc, les outils, bon, on pense naturellement au plan local d'urbanisme. C'est le document phare. Tous les citoyens connaissent le plan local d'urbanisme. Dès lors qu'on veut construire une maison ou changer la couleur de ses volets, on va aller voir le plan local d'urbanisme et on va regarder justement s'il est possible ou pas de réaliser les travaux que l'on souhaite mener. Et à ce titre-là, le plan local d'urbanisme, c'est le document phare pour traiter la question des îlots de chaleur urbains et donc de travailler sur tous les sujets qui viennent d'être évoqués par Corinne Manson, c'est-à-dire travailler sur justement, par exemple pour les futurs quartiers qui vont être construits, travailler sur la largeur des rues, travailler sur la présence de la végétation, c'est-à-dire ça, on peut aussi travailler pour les quartiers qui existent déjà, travailler sur les revêtements, puisque le but aussi du plan local d'urbanisme, c'est de parler des matériaux en partie, hein, pas ultra précisément, mais en partie, on peut travailler sur les couleurs, exactement. Donc, limiter, par exemple, les couleurs sombres, tant au niveau de la voirie qu'au niveau des revêtements muraux. Donc, finalement, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être réalisées aujourd'hui à travers le plan local d'urbanisme.
Ok, très bien. Et est-ce que vous pensez que, même si ce n'est pas pris en compte par le droit, d'un point de vue juridique, il peut quand même y avoir un fondement scientifique ? On pense notamment, par exemple, à des rapports du GIEC, etc., une sorte de fenêtre d'opportunité qui permettrait de s'appuyer sur une base scientifique pour venir prendre en compte, justement, ce phénomène d'îlot de chaleur.
Alors là, on a, vous avez raison, des études au niveau mondial, au niveau international, au niveau national et sur le territoire de Tours. Mais tu vas en parler un petit peu plus, puisque le PCAET, le plan climat air énergie territoriale, est en cours de finalisation et des études avaient été menées en 2021. 22, au moment des fortes chaleurs, et plusieurs relevés de température avaient été effectués sur la ville de Tours, à la fois sur la proximité de la Loire, je pense que c'était à peu près au niveau de la Guinguette, donc vraiment au bord de la Loire, sous les arbres, sur le haut de la rue Nationale, donc tout près, et puis également à la Petite Madeleine, centre commercial de Chambray-les-Tours, et je crois qu'il y avait un différentiel de plus de 10 degrés, presque 15 degrés, entre le point le plus chaud. Donc le point le plus chaud, c'était la Petite Madeleine. Et le point le plus frais, c'était évidemment au bord de la Loire, sous les arbres.
On a d'ailleurs une carte, je l'ai amenée, bon, les auditeurs et les auditrices ne peuvent pas la voir, mais une carte qui a été justement réalisée par la métropole. Donc là, c'était en 2019, mais après, ça a été confirmé effectivement plus tard dans d'autres relevés qui ont été réalisés par la métropole. Et ce que l'on constate sur cette carte, donc c'était le 4 juillet 2019 à 10h40, donc le matin. Le 4 juillet 2019, si on est près de Saint-Genoux, en bord de Loire, au bord de la Loire, on a à peu près 25 degrés en température. Et si on est dans le petit jardin qui est juste à côté du Vinci, à proximité de la préfecture, là, on est sur du 45 degrés. Donc 20 degrés d'écart, le même jour, à la même heure. Donc ça, c'est vraiment concret. C'est-à-dire qu'on remarque l'influence de la Loire et l'influence des végétaux qui sont présents au niveau d'un territoire permettent de réduire la température, alors que dans un espace qui est extrêmement urbanisé, extrêmement artificialisé, donc avec plein de bâtiments, avec plein de bitume autour, là, en revanche, il fait très chaud.
Et je voudrais juste ajouter que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de diminution de la consommation des espaces à l'extérieur des agglomérations, les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc, évidemment, ça a pour conséquence d'augmenter la densification des territoires déjà urbanisés, des villes. Et on va être confronté à une difficulté et trouver aujourd'hui, alors peut-être avec des scientifiques, des moyens de lutter contre ces îlots de chaleur.
Enfin, pour rebondir, je trouve que c'est vraiment un... On parle beaucoup dans les médias, notamment en ce moment, du zéro artificialisation net. Donc l'objectif, c'est de limiter l'artificialisation des sols et de faire en sorte que si on artificialise, donc si on construit, si on transforme un terrain qui n'est pas construit aujourd'hui et qu'on le transforme en habitation, par exemple, on doit désartificialiser, donc enlever finalement le bitume d'un terrain pour arriver à quelque chose, à une zéro artificialisation. Voilà, donc au final, il n'y a pas eu d'artificialisation d'un point de vue comptable, d'un point de vue numérique. Et ça, c'est finalement le vrai enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous dit il faut arrêter de construire en campagne, il faut arrêter de s'étaler, il faut donc densifier, donc augmenter les constructions au sein des villes. Et en même temps, on nous dit, au sein des villes, il faut garder des espaces de fraîcheur pour limiter les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Donc là, on est face un peu à une équation qui est complexe, et même pour les collectivités aujourd'hui, arriver à appréhender concrètement le zéro artificialisation net et savoir comment faire pour rendre la ville vivable tout en continuant à faire évoluer et grandir sa ville, c'est très compliqué. Là, pour l'instant, on n'a pas encore les outils. Et on ne sait pas encore exactement comment mettre en œuvre concrètement cette zéro artificialisation nette.
Après, pour rebondir justement, parce que j'avais prévu des questions sur cet objectif de zéro artificialisation nette, c'est que c'est un objectif qui forcément ne sera pas mis en place pareil, par exemple dans une ville comme le centre-ville de Tours, où là tout est déjà artificialisé, on va plutôt avoir tendance à désartificialiser, que dans une commune plutôt périurbaine, où là on va plutôt avoir tendance à artificialiser justement. Donc c'est un objectif qui ne sera pas mis en place de la même manière. Est-ce que, à votre sens, ça peut avoir des effets sur les îlots de chaleur ?
Alors déjà, tout n'est pas artificialisé à Tours. Si on prend vraiment la commune de Tours, on a aujourd'hui des espaces. On peut penser par exemple aux casernes Beaumont-Chaumont, Chauveau, pardon. Oui, caserne Beaumont-Chauveau. Donc c'est là où vous avez la fameuse caserne Beaumont avec les Beaumont, qui est un tiers-lieu aujourd'hui qui est très vivant pour la ville de Tours. Cet espace-là aujourd'hui, il n'est pas construit. Alors bon, il a été désartificialisé. Et un des projets, là, c'est de construire des bâtiments tout en ayant des espaces végétaux importants. Le projet pourrait très bien, au contraire, être de dire on va faire un énorme parc poumon au cœur de la ville. Ça peut être un projet. Autre exemple, on est ici au quartier des Deux-Lions. Au quartier des Deux-Lions, vous avez l'université de Tours qui dispose... on appelle ça une friche, en tout cas un espace qui n'est pas construit aujourd'hui, avec un espace d'ailleurs même qui est végétalisé, donc qui n'est pas du tout artificialisé. Bah, là, pareil, on est face à deux possibilités. Soit on construit pour faire du logement, par exemple, soit au contraire, on ne construit pas et on va favoriser un espace végétalisé dense, par exemple, avec des arbres. Avec, voilà. Plein de choses peuvent être pensées. Donc ça, après, c'est des vrais choix politiques qui doivent être faits par nos élus.
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thomas. L'idée serait peut-être d'accroître le nombre de logements à proximité immédiate des transports collectifs. Et lorsqu'en fait, on va vouloir justement permettre aux personnes de ne plus utiliser leur voiture, il faut qu'elles soient à proximité immédiate de ces transports collectifs. Et donc, l'idée sera parfois d'augmenter la densification là où on est justement en cœur de ville. Alors ça peut être emprise sur des espaces actuellement non artificialisés, ça peut être d'augmenter la hauteur des constructions. Aujourd'hui, sur beaucoup de villes, on a des modifications des documents d'urbanisme que Thomas a évoqué, les plans locaux d'urbanisme, pour permettre une augmentation en hauteur des constructions. Et cette augmentation en hauteur des constructions, vous l'avez dit aussi, a des impacts sur la circulation de l'air, sur le vent, sur cet effet de chaleur et ces rues canyon très importantes. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de densifier là où on a déjà des équipements collectifs qui vont permettre à la population d'avoir accès très rapidement à l'ensemble des services essentiels. Donc, et sur la périurbanisation, on a des lotissements et on s'aperçoit aujourd'hui que ces lotissements sont des espaces très importants pour la biodiversité. Donc si on densifie juste cette première couronne, on va aussi avoir une perte de biodiversité importante. Donc l'équation est compliquée.
Donc il faut jongler entre différents objectifs, si je résume. Et si je change de sujet, si on va plutôt sur la responsabilité qui pourrait être liée aux îlots de chaleur, est-ce que, par exemple, question, on pourrait, par exemple, en cas, imaginons un décès qui survient du fait de la chaleur dans un îlot de chaleur urbain, est-ce que, par exemple, la métropole pourrait être condamnée pour inaction parce qu'elle pourrait avoir été au courant du phénomène mais ne pas avoir cherché à adapter la rue ou quelque chose dans... comme ça.
Alors, vous abordez là un sujet d'actualité. Alors, pas directement sur les îlots de chaleur, mais sur la question de la responsabilité en lien avec l'environnement et ses impacts sur la santé des habitants. Pour la première fois, l'année dernière, le tribunal administratif de Paris a infligé une sanction parce que deux élèves d'une école primaire en bordure immédiate du périphérique souffraient en fait d'asthme et d'infections pulmonaires. Et c'est la première fois qu'il y a eu une condamnation d'une personne publique pour inaction, puisque le juge a accepté de reconnaître que les maladies dont souffraient les enfants étaient directement liées à leur exposition à la pollution de l'air. Donc en France, c'est la première fois qu'on a une condamnation parce qu'on va considérer que la qualité de l'air n'était pas satisfaisante et a causé des difficultés. Au niveau européen, c'est pas encore le cas, mais on sent des prémices. Ça avait été proposé par les conclusions l'équivalent du commissaire du gouvernement. Ça n'a pas été suivi par la Cour de justice, mais souvent les évolutions jurisprudentielles en droit européen se font de cette façon, c'est-à-dire une proposition qui n'est pas retenu, à la fois d'après c'est retenu. On sent, enfin je ne sais pas ce que tu en penses Thomas, une évolution. Alors à ma connaissance, ça concerne la pollution de l'air, ça ne concerne pas les îlots de chaleur, mais on voit que ça commence à être mis en place. Enfin tu vas pouvoir être plus précis que moi je pense.
Oui, je te rejoins complètement, il y a un mouvement effectivement en ce moment qui vise à, excusez-moi, à augmenter... l'engagement, à amplifier l'engagement de la responsabilité des personnes publiques sur les questions environnementales. Après, ce qui est toujours très compliqué sur ce sujet-là, c'est que pour engager la responsabilité d'une personne publique, il va y avoir différents éléments, différentes conditions qui vont devoir être réunies. Déjà, le fait de ne pas avoir respecté une obligation qui s'impose à la personne publique. Ensuite, l'existence d'un dommage. Donc là, bon, les dommages peuvent être assez facilement identifiés. Et ensuite, un lien de causalité entre le dommage et l'obligation qui était à la charge de la personne publique. Et c'est là, finalement, le vrai sujet. Pour reprendre l'exemple du jugement du tribunal administratif de Paris, le juge a retenu, et c'est une première, une conception assez, assez légère, beaucoup plus légère que d'habitude, du lien de causalité. Il a été moins exigeant. Il a admis finalement cet engagement de responsabilité, alors même que le lien de causalité pouvait être en partie discuté. D'ailleurs, c'était toute l'argumentation qui était retenue par la personne publique concernée. Et après, quand on regarde finalement les dommages et intérêts qui ont été prononcés, c'est assez dérisoire. Donc, bon, on est, je pense, plus ici dans quelque chose d'assez nouveau, symbolique peut-être, mais ce sont les prémices de quelque chose. Donc, je pense que le terrain est ouvert et on va vers sûrement un engagement de beaucoup plus important, de plus en plus important, en fonction de la définition que va retenir le juge du lien de causalité.
Alors, je suis totalement d'accord avec Thomas, parce qu'en matière de pollution de l'air, on a une directive européenne qui fixe en fait des seuils de pollution, et ces seuils de pollution ont été repris en droit français, et donc on a un texte qui fixe très précisément en fait la qualité de l'air qu'on va respirer. Et là, il y avait eu plusieurs relevés qui avaient été effectués et la cour d'école était déjà fermée, c'est-à-dire qu'en fait les enfants ne pouvaient plus sortir parce que la pollution de l'air était avérée. Donc on avait bien le texte, on avait bien des relevés et ensuite il y a eu une expertise médicale qui a amené à considérer que les infections dont souffraient les enfants étaient liées à la pollution de l'air. Mais c'est à ce niveau-là que jusqu'à présent, ça n'avait pas été retenu. Ce lien de causalité n'avait pas été retenu. Pour les îlots de chaleur, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas l'équivalent des textes en matière de pollution de l'air. Est-ce qu'on pourrait se rattacher à ce qui existe, tu sais, dans le Code du travail sur l'exposition des travailleurs à une chaleur maximale? Donc là, par exemple, vous évoquiez le fait que vous travaillez pour les espaces verts à une chaleur excessive, là, mais ça ne relèverait pas pour moi d'une responsabilité administrative, mais là d'une responsabilité administrative pour inaction, mais là d'une responsabilité en tant qu'employeur.
Alors après, il y a aussi sur la question de ce qu'effectivement, il n'y a pas a priori d'obligation qui existe concernant les îlots de chaleur urbains. Pour autant, il y a en ce moment des échanges qui se font, et notamment devant la Cour internationale de justice qui a été saisie pour un avis sur ce sujet-là, de savoir s'il existe ou pas une obligation générale d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Est-ce que les États ont une obligation générale à agir concrètement face au changement climatique? Alors, toutes les ONG attendent énormément cet avis de la Cour internationale de justice. Donc on attend de voir. Là, récemment, le tribunal international de la mer, je crois que c'était la semaine dernière, a rendu un je ne sais plus comment on appelle ça, un avis, je crois, dans le cadre de ce processus initié par la Cour internationale de justice. Et pour le tribunal international de la mer, il existe une obligation générale. Donc c'est un premier pas. Par ailleurs, il y a eu un certain nombre d'avis qui ont été transmis par différents chercheurs sur ce sujet-là. Et donc, ce que l'on constate, c'est que finalement, à l'échelle internationale, et ça correspond aussi aux différentes décisions de justice qui ont été rendues au niveau national. On pense par exemple à notre affaire à tous. C'est une affaire assez connue aujourd'hui, qui a été menée par plusieurs ONG afin d'engager la responsabilité d'État et faire en sorte que l'État soit condamné pour agir concrètement afin de lutter contre le changement climatique. Eh bien, ce que l'on constate, c'est que globalement, aujourd'hui, les juridictions estiment qu'il existe finalement une obligation générale d'action. Alors après, comment elle se matérialise concrètement, ça reste encore à déterminer, mais finalement, on a un peu cette première étape. Donc, pour moi, on a l'obligation générale, si on reprend la question des îlots de chaleur urbains, on a une obligation générale par rapport au changement climatique. Bon, voilà, c'est un premier point. On a des dommages qui se multiplient, notamment sur le plan de la santé, sur le plan sanitaire. Reste le lien de causalité entre les deux, mais qui, je pense, progressivement va s'affirmer en fonction de l'interprétation que va retenir le juge en la matière.
Et Thomas, tu évoquais la question internationale. Et évidemment, on va avoir aujourd'hui beaucoup de questions qui vont se poser au niveau international avec les réfugiés climatiques. Il y a certaines parties du monde où les îlots de chaleur, là, sont d'une ampleur telle que la vie des habitants est en danger.
L'Inde. Lundi dernier, je crois que vous aviez ouvert, Mélissa, l'émission avec la température en Inde. Bon, bah, c'est éloquent. Enfin, là, en ce moment, il fait plus de 45-50 degrés. Et nous sommes au mois de mai. Enfin, on est fin mai, mais nous sommes au mois de mai. Donc c'est vraiment éloquent. Effectivement, la question des réfugiés climatiques, ça va être une vraie question. On a aussi l'exemple en Espagne, notamment le sud de l'Espagne, qui devient progressivement désertique et donc de moins en moins vivable. On ne parle pas du Maroc et de la Tunisie. C'est un vrai sujet.
Eh bien, je, citoyenne non juriste, vous propose de faire une pause musicale et nous allons écouter l'excellent groupe réunionnais Saudade, Poucorlère, et on aura même le plaisir de les entendre très bientôt à la Guinguette Tours-sur-Loire. Alors, ne boudons pas notre plaisir. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours dans la Méridienne pour poursuivre nos échanges sur les îlots de chaleur urbains avec mon co-animateur Victor Perrin et nos deux invités. Voilà. Compétents et qualifiés pour nous donner leurs avis sur tous ces sujets. À tout de suite. c'était Saoudage sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne, vous écoutez toujours notre excellente émission sur les îlots de chaleur urbains, émission co-animée avec Victor Perrin, étudiant en Master 1 droit de l'environnement. Et nos invités, c'est Corinne Manson et Thomas Tuillier. Alors, on va peut-être vous poser, chers invités, de nouvelles questions là pour en savoir plus sur la commission aménagement du territoire, puisque nous avons ici un membre du conseil de développement, justement, de cette chose. Donc, à quoi ça sert le conseil de développement de Tours Métropole? Qui a fondé cette commission? Pourquoi? Dans quel but? Qui en sont les membres? Et puis, tant qu'on y est, comment ont-ils été choisis? Sur quels critères? Est-ce que les membres sont bénévoles? Et voilà, parce que toutes les questions que nous nous posons en tant que citoyens, est-ce qu'ils doivent être exempts de tout conflit d'intérêts?
Alors, le conseil de développement, c'est une instance citoyenne, on pourrait la qualifier de telle, donc une instance en tout cas qui regroupe les différents acteurs du territoire, des acteurs à la fois citoyens, on a un collège citoyen, des personnes qualifiées, donc des personnes qui ont des compétences spécifiques dans les domaines de compétences du CODEV, des représentants des communes également, et des représentants des milieux socio-professionnels, on pense par exemple à la Chambre de commerce et d'industrie ou encore l'Université de Tours. Donc, tous ces collèges-là, ça représente au total 111 membres. Donc, il y a 111 membres qui, aujourd'hui, composent le Conseil de développement. Et le Conseil de développement, donc, qui est une instance obligatoire, la métropole n'a pas le choix que d'avoir un Conseil de développement. Ce Conseil de développement, il a été mis en place, il y a quand même maintenant de nombreuses années, je n'ai pas l'année précise, mais mis en place en lien notamment avec le Tours qui était à l'époque communauté d'agglomération, qui est devenu ensuite communauté urbaine et qui est ensuite devenu maintenant métropole. Donc on a ce conseil de développement qui rend des avis, enfin qui est consulté par la métropole sur les différentes politiques qu'elle mène. Donc c'est assez vague, a priori. En fait, ça correspond finalement aux compétences de la métropole. Donc par exemple, le conseil de développement a été sollicité récemment sur le plan local de l'habitat, qui vise à arrêter la politique de la métropole en matière d'habitat, en matière de logement, de construction de logement à l'échelle de la métropole. Le CODEV a été également saisi sur le plan climat, air, énergie territoriale, donc qui vise à arrêter la politique de la métropole en matière de pollution de l'air, de lutte contre la pollution de l'air, en matière de lutte contre le changement climatique et d'adaptation au changement climatique, et également la politique énergétique de la métropole. Donc là, c'est deux exemples, hein, mais après, on est régulièrement sollicité. L'autre exemple, c'était le contrat local de santé, puisque ça fait partie notamment des compétences de la métropole que d'intervenir sur ces sujets-là. Donc on est régulièrement saisi. Par ailleurs, le CODEF peut s'auto-saisir de sujets qu'il estime nécessaires, pertinents. Et c'est le cas, par exemple, de la commission aménagement qui, en 2022, s'est auto-saisie sur la question de la surchauffe urbaine.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien.
Et alors juste une question, j'insiste sur ce CODEV, comment il fait le casting en fait? C'est des gens qui viennent de leur plein gré, j'imagine, sont-ils bénévoles? Est-ce qu'il y a des enjeux de pouvoir quelconque de se dire, bah tiens, justement, moi je suis entrepreneur dans le BTP, ça peut m'intéresser ce genre de commission, comme ça je peux discrètement placer des projets ou autres?
Alors sur la composition, sur les modalités de recrutement des différents membres, ça dépend du collège. Pour le collège citoyen, il y a un appel à candidature. D'ailleurs, bientôt, il va y avoir un nouvel appel à candidature. Donc, tous les citoyens et les citoyennes sont invités à candidater.
Pourquoi vous me regardez
pour intégrer le collège citoyen. Donc, là, ce sont des citoyens lambda qui ne représentent pas en tant que tel une institution, un organisme, une entreprise. Pour le collège des représentants communaux, ils sont désignés par leur maire, par le conseil municipal pour être plus précis. Mais ce ne sont pas des élus, ce sont des citoyens de la commune et ils sont nommés par le conseil municipal. Pour le collège des personnes qualifiées, ces personnes-là sont proposées par la métropole. Donc c'est la métropole qui a identifié un certain nombre de personnes dont ils estiment qu'elles ont des compétences spécifiques qui pourraient alimenter les travaux du conseil de développement. Et enfin, pour le collège des représentants des milieux socio-professionnels, la métropole a identifié un certain nombre de structures, d'organismes, et donc ces structures, organismes, sont invités à désigner une personne qui siège au sein du conseil de développement. Alors après, sur la question des risques de conflit d'intérêts, il peut y en avoir. C'est une réalité. Et ce qui est assez intéressant au sein du conseil de développement, c'est que quand on se présente en fonction de son collège. Donc, on sait quels sont les intérêts, au final, de chacun. Par exemple, nous avons au sein du conseil de développement une personne alors, qui relève du collège citoyen, mais qui explique quel est son métier. Et son métier, c'est d'être agent immobilier. Bon, un agent immobilier, il va avoir un prisme particulier, des intérêts particuliers qu'il va chercher à défendre. Dans l'absolu, il n'est pas au sein du conseil de développement pour défendre ces intérêts-là, mais nécessairement, dans le cadre des discussions, il va aborder ces questions-là. Et l'avantage, c'est qu'on a une pluralité d'intérêts. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la société, ce n'est pas un organe flou qui est dénué de tout intérêt. Au contraire, chacun a ses propres intérêts. Et donc, on les met sur la table, on en discute, et à la fin, on arrive à une délibération collective, principalement basée sur le consensus. Alors, ça peut paraître comme ça extrêmement utopique, mais ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire que globalement, on remarque, et c'est d'ailleurs un point important, c'est vraiment un organe apolitique. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'au sein du Conseil de développement, alors peut-être que certains sont encartés ou pas, mais ils ne sont pas là pour représenter leur parti. Et finalement, ce que l'on constate, c'est qu'on arrive tous, j'insiste sur cela, tous à se mettre d'accord, quelles que soient nos opinions politiques, quels que soient nos intérêts personnels, professionnels. Et ça, c'est la force, je trouve, du Conseil de développement. Et c'est ça qui permet quelque part aussi d'alimenter la réflexion des élus métropolitains sur les politiques qui sont les siennes.
Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais vous dites, Thomas Tullier, des citoyens lambda, mais ça suppose que ces citoyens lambda, ils connaissent déjà l'existence du CODEV.
Alors, pour ma part, j'ai candidaté, donc je suis du collège citoyen, j'ai candidaté parce que j'ai vu dans la rue. Donc là, en tant que citoyen lambda, je me promenais dans la rue, j'ai eu des affiches de la métropole afin de devenir membre du conseil de développement. On ne m'a pas démarché. Donc c'est sûr que ça nécessite pour toute personne finalement d'être, de regarder la rue, de regarder les affiches, de se renseigner, de lire les bulletins municipaux, de lire, de s'intéresser à son territoire. Et c'est vrai que les personnes, soyons réalistes, les personnes qui sont membres du conseil de développement, c'est les personnes qui sont engagées de manière générale, qui sont impliquées, qui veulent participer à la construction de leur territoire. Pour autant, voilà, dans la composition, on a des personnes qui sont professeurs dans le secondaire, qui sont architectes, qui sont membres d'associations environnementales, qui sont au chômage. Bref, des personnes qui correspondent à l'image de la société de Tours Métropole Val-de-Loire. Alors après, on n'est pas sur une représentation fidèle de Tours Métropole Val-de-Loire et de ses habitants. Ça, également, c'est sûr, puisque à moins de faire un tirage au sort, ça peut être une solution. C'est un point.
Ça avait été utilisé là, au début.
Au début.
Pour le premier conseil de développement, ça avait été un tirage au sort.
Voilà, et finalement, on remarque que ça ne fonctionne pas toujours. Parce qu'il y a aussi des biais. En fait, finalement, la représentativité parfaite et le mode de représentativité, bon, y a toujours des biais, il y a toujours des problèmes qu'il faut réussir à lever. Voilà, donc, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas idéal, ce n'est pas parfait, mais je pense que ça fonctionne bien.
Et alors, quelle valeur ont les avis ou de cette commission, en fait ? Est-ce que les élus peuvent dire « Ah bah super, on s'en fout » ou est-ce qu'ils sont obligés d'en faire quelque chose ?
C'est des avis simples. Donc, c'est un avis. On est là pour les conseiller, pour alimenter leur réflexion. Après, ils l'utilisent ou ils ne l'utilisent pas. En revanche, ce que l'on demande, nous, en tant que membres du conseil de développement, c'est un retour de la part des élus sur nos avis. Qu'ils nous disent, par exemple, sur ce point-là, on est d'accord avec vous. Sur ce point-là, on n'est pas d'accord avec vous. À la fin, celui qui a la légitimité, c'est l'Assemblée métropolitaine. Ce sont les élus qui ont été élus par l'ensemble des habitants de Tours Métropole Val-de-Loire. Nous ne sommes que des citoyens actifs au sein du territoire, mais nous n'avons pas la capacité de prendre des décisions à la place des élus. Donc ça, c'est un point important. La légitimité démocratique, elle est extrêmement importante. Elle est au cœur, finalement, de notre fonctionnement institutionnel.
Et juste, c'est bénévole.
Et oui, et c'est bénévole, tout à fait. Voilà, on ne touche pas d'argent. Et ça nous demande du temps. C'est-à-dire que vraiment, quand on s'implique, pour prendre l'exemple de la commission aménagement du territoire, on se réunit à peu près une à deux fois par mois. Donc ça dure deux heures à chaque fois. Donc, bon, c'est quatre heures. Mais après, il y a du travail à réaliser en amont de chaque réunion pour pouvoir rendre des avis de qualité. Et ça, ce travail, bon, il est difficilement quantifiable, hein, et puis ça dépend de, aussi des capacités de chacun à trouver du temps. Et ensuite, il y a la rédaction des avis. Donc là, par exemple, j'ai avec moi le rapport du CODEV sur la métropole en surchauffe.
Rappelons-le.
Voilà, instant publicité. Il fait 30 pages. Il a été écrit exclusivement par des membres du Conseil de développement. Ce n'est pas un agent métropolitain qui a rédigé cet avis. Donc ça, j'y tiens énormément parce que dans certains CODEV ou dans d'autres instances de démocratie participative, on peut penser par exemple au CESER, donc le Conseil économique, social, environnemental régional, donc qui est à l'échelle de la région centre. Les membres participent à la rédaction, mais il y a surtout beaucoup d'administratifs qui sont là pour aider les différents membres à écrire leurs avis. Nous, on écrit tout. Alors, c'est pas parfait, c'est sûr. Voilà, c'est une position qui est citoyenne, qui n'est pas technique, qui n'est pas politique. Elle vaut ce qu'elle vaut. Et néanmoins, je pense qu'elle permet aujourd'hui d'alimenter la réflexion de la métropole. Et on le voit, enfin, on est assez content de voir certains résultats. Par exemple, sur ce rapport sur la métropole en surchauffe, il y a un certain nombre de préconisations qu'on a pu faire qui aujourd'hui se retrouvent dans le plan climat, air, énergie territoriale, qui vont se retrouver dans le plan local d'urbanisme métropolitain. Alors, est-ce qu'on en est à l'origine? Ou est-ce que finalement c'était une idée qui était déjà en place au sein des instances de la métropole? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est satisfait. Enfin, on voit qu'il y a quand même un effet.
Et juste pour compléter sur les effets, c'est vrai que juridiquement, il n'y a pas d'obligation de respecter en fait l'avis qui va être rendu, mais cet avis, il est parfois obligatoire. C'est-à-dire que dans certains cas, le Code général des collectivités territoriales va imposer d'avoir en fait, d'obtenir cet avis. Et cet avis, en cas de contentieux, il pourra avoir un certain rôle en réalité, parce que cet avis, il est public. Le juge pourra évidemment en prendre connaissance et ça va pouvoir l'éclairer. Parce qu'aujourd'hui, le juge administratif, il est saisi de plus en plus de sujets extrêmement techniques sur lesquels il n'a pas forcément des connaissances très avancées. Et lorsqu'on a justement un avis de cette valeur, de cette nature qui est rendue, ça peut avoir en réalité des conséquences importantes. Et tu évoquais le Conseil économique et social régional environnemental, mais il y a aussi au niveau national le CESE, Conseil économique, social, environnemental, qui existe depuis que la Constitution de 1958 a été mise en place. Et ce CESE, il rend des avis. Mais ces avis, en réalité, ils ont une importance dans la législation. Donc, c'est pas parce que c'est qu'un avis que ça n'a pas d'effet.
Victor, avez-vous des questions pour nous inviter?
Est-ce que vous pensez qu'il y a des spécificités de la métropole de Tours, en termes de bâti, etc., qui forgent, entre guillemets, l'identité de la ville? Et est-ce que, donc, des spécificités en termes de bâti par rapport aux autres métropoles, par exemple? Et est-ce que, selon vous, c'est des spécificités qui sont prises en compte par les documents d'urbanisme? Et du coup, est-ce qu'on devrait plutôt essayer de poursuivre avec ces spécificités ou plutôt chercher à, par exemple, modifier les documents d'urbanisme pour permettre de lutter contre les îlots de chaleur tout en gardant certaines spécificités qu'on peut avoir dans la métropole?
Alors, quand on va établir un plan local d'urbanisme, il va y avoir obligatoirement la prise en compte des spécificités du territoire sur lequel il s'applique. On a obligatoirement un diagnostic territorial. Donc là, on va justement regarder comment la ville est organisée. On va avoir obligatoirement une évaluation environnementale. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est obligatoire pour tous les documents d'urbanisme, les PLU dont on parle, les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux. Et cette évaluation environnementale, elle va devoir en fait expliquer quelles sont les conséquences sur l'environnement et sur la santé des projets qui vont être portés par le plan local d'urbanisme. Cette évaluation environnementale, elle est essentielle. Et donc justement, on doit imaginer une politique qui prenne en compte les spécificités des différents secteurs du territoire, du périmètre couvert par le PLU. Si on prend la ville de Tours, il y a une spécificité qui est le quartier historique. Et là, pour les quartiers historiques, se posent souvent beaucoup de questions. Parce que les quartiers historiques, ils sont protégés par un document spécifique qui, en fait, rend extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir des politiques très importantes sur ces bâtiments historiques. Et tout est classé. Les bâtiments, les rues, l'environnement. Et là, c'est vrai que ces bâtiments historiques vont être difficilement modifiables. On évoquait, je cafte un peu, pendant la pause, en fait, la question de l'isolation des bâtiments, parce qu'on a parlé des îlots de chaleur et de leurs conséquences pour les habitants qui sont dans la rue, mais il y a aussi des îlots de chaleur qui rendent la vie difficile à l'intérieur de leur logement. Et lorsqu'on est avec un bâtiment historique, l'isolation est compliquée. On ne voit pas non plus dans un quartier historique pouvoir agrandir les fenêtres, mettre des fenêtres au nord plutôt qu'au sud. On ne peut rien toucher. Après, sur les autres bâtiments, évidemment, on ne va pas pouvoir aujourd'hui imposer des travaux. On va pouvoir avoir une action sur les extensions, sur les modifications, sur les créations, sur les constructions. Mais sur l'existant, aujourd'hui, le code de l'urbanisme ne permet pas d'imposer, par exemple, de murer les fenêtres au sud et d'ouvrir au nord, de refermer un peu, de mettre des casquettes. Enfin, on ne peut pas aujourd'hui, au nom du droit de l'urbanisme, même pour lutter, améliorer la qualité de vie des habitants, imposer des travaux. On peut justement juste agir sur le futur.
Et c'est d'ailleurs la vraie difficulté aujourd'hui, hein, puisque au final, le bâti futur, il restera minoritaire par rapport au bâti existant, donc aux bâtiments qui existent déjà, qui ont été construits, notamment pour certains, et c'est peut-être la spécificité de Tours, au moment de la reconstruction dans les années 50. Donc effectivement, ce n'est pas simple. Et pour ce faire, la réponse, elle ne passe pas nécessairement par le plan local d'urbanisme. Alors éventuellement, à la marge, dans le cadre des travaux qui vont être réalisés, qui doivent être déclarés auprès de la mairie, là, il y a des petites choses qui peuvent être faites, mais c'est vraiment à la marge, c'est extrêmement limité. En revanche, ce que peut faire la métropole, la ville, c'est d'agir à travers des subventions, par exemple, afin d'orienter les politiques publiques et d'orienter les décisions des habitants. Voilà, ça, c'est une des solutions qui peut être proposée. D'ailleurs, c'est une des propositions que nous avons proposées dans le cadre du rapport sur la surchauffe urbaine. Après, aussi dans les spécificités, je pensais à ça en vous écoutant, on a le risque inondation qui est quand même très particulier pour Tours, au point que Tours est un territoire à risque inondation. Donc, il y a très peu de territoires en France qui sont considérés avec un tel risque. Donc ça, c'est, je pense, c'est une vraie spécificité tourangelle. Et à ce titre, d'ailleurs, c'est un des podcasts qu'on a pu entendre ou qu'on va entendre qui traite des inondations. Il y a certaines villes, je pense notamment à la ville de Saint-Pierre-des-Corps, qui a innové en matière de construction en construisant des bâtiments sur pilotis. Alors, on peut se dire que c'est un peu étrange d'avoir des bâtiments sur pilotis à Tours, enfin bon, on n'est pas proche de la mer, bon, c'est étrange. En fait, c'est extrêmement intelligent, au contraire, puisque cela veut dire que si demain il y a une forte inondation qui inonde largement Saint-Pierre-des-Corps, Tours-Centre, La Riche, donc en fait, finalement, tout le on pourrait dire le cœur métropolitain, eh bien, face à une inondation comme celle-ci, ces bâtiments pourraient continuer à fonctionner et les habitants pourraient continuer à vivre dans leur maison. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, on ne peut pas agir sur le bâti existant, mais en revanche, sur le bâti futur, on peut encourager des formes architecturales innovantes qui prennent en compte pleinement les risques climatiques de la métropole.
Oui, parce qu'on a parlé de la chaleur, mais les inondations sont aussi extrêmement... C'est pas si, c'est quand. Quand va avoir lieu l'inondation ? On est sûr qu'il y en aura une. C'est la date.
Et peut-être une dernière question, parce que l'heure tourne, il nous faut avancer. Est-ce que vous parliez du conseil de développement qui ne peut pas se substituer au conseil métropolitain ? Donc en termes de compétences juridiques, c'est le conseil métropolitain qui va pouvoir agir, peut-être si je ne me trompe pas. Et la deuxième partie de la question, c'est quelles compétences avec ou sans S, qui permettent d'agir sur les îlots de chaleur urbains ? Parce qu'on parle d'urbanisme, par exemple, pour le sens des rues, mais est-ce que, par exemple, on ne peut pas agir en termes de politique de transport ou d'énergie pour permettre de lutter contre les îlots de chaleur ?
Alors, donc oui, effectivement, c'est comme on le disait, l'assemblée métropolitaine composée de tous les élus métropolitains qui ont été élus par les habitants qui prennent les décisions. Ce n'est pas le CODEV, donc ça c'est le premier point. Et sur ce sujet-là, on constate que durant ce mandat-là, les élus métropolitains ont fait le choix. Alors ça a peut-être pris, là, c'est une posture un peu critique, mais ça a peut-être pris un peu de temps. Mais là aujourd'hui, il y a une vraie ambition de la part de la métropole de réorienter toutes ses politiques publiques autour des questions climatiques. Et donc quand je dis toutes ces politiques publiques, ça passe par effectivement les mobilités. Et donc, enfin. Bon, je, je passe sur ce point-là, mais effectivement, il y a des actions aujourd'hui qui sont menées qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la part des transports en commun, par exemple, qui visent à mettre en place une zone à faible émission au sein de la métropole tourangelle. On peut en parler longuement, ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière, puisqu'on a plein de choses à dire. La métropole agit également donc, sur les questions d'urbanisme à travers son plan local d'urbanisme métropolitain, agit également sur les questions donc, climatiques, énergétiques à travers son plan climat, air, énergie, territoriale, agit sur le logement à travers son plan local de l'habitat. Et donc là, en fait, c'est un moment assez intéressant, je trouve, ce qui se passe en ce moment à Tours, puisque l'ensemble des documents de planification, donc des politiques publiques de la métropole, sont revus en ce moment. Et donc, c'est assez rare, parce que habituellement, les documents de planification sont modifiés, pas forcément en synergie, pas forcément au même moment. Et là, au contraire,
le
schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme métropolitain, le plan climat, air, énergie territoriale, tous ces documents-là sont en train d'être modifiés en même temps. Ça, c'est une opportunité. Et effectivement, un des projets là, aujourd'hui de la métropole, c'est d'avoir un secrétariat général au changement climatique, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui à l'échelle nationale, afin de pouvoir, au cœur même de la métropole, d'avoir un organe qui va structurer et organiser l'ensemble des politiques publiques autour du changement climatique. Donc, au final, effectivement, il n'y a pas que l'urbanisme, on a plein d'actions aujourd'hui à l'échelle métropolitaine pour pouvoir agir concrètement face au changement climatique et aux îlots de chaleur urbains.
Et peut-être une autre question, est-ce que, à votre avis, les documents d'urbanisme en ce moment, ils sont adaptés pour, ils font en sorte qu'on va pouvoir s'adapter au changement climatique, notamment, est-ce que, par exemple, on se dirige, par exemple, vers une reconfiguration des nouveaux paysages dans les espaces urbains, sachant que, si je prends le dernier rapport du GIEC, si je ne me trompe pas, on se dirige à l'échelle globale vers un réchauffement de plus 2,8 degrés, mais on irait plutôt vers plus 4 degrés en Europe, et donc là, justement, ça impliquerait de changer, par exemple, les essences d'arbres qui se trouvent en ville, etc. Est-ce que ça, c'est des problématiques qui sont prises en compte dans vos travaux ?
Alors, le plan local d'urbanisme de Tours, si on parle de celui-ci, aujourd'hui, il n'est pas adapté à cet enjeu-là, hein, qui est récent, hein, le plus 4 degrés. Il vient d'être identifié à l'échelle nationale par le ministère de la Transition écologique, parce qu'il a changé de nom, alors j'ai plus en tête le nouveau nom, je crois que c'est ça, ministère de la Transition écologique, afin de fixer une trajectoire d'adaptation au changement climatique, donc à plus 4 degrés à échéance 2100. Et ça, aujourd'hui, nos politiques publiques, elles ne sont pas prêtes, puisque c'est vraiment nouveau, ça date de 2023, donc c'est vraiment très récent. Donc maintenant, il faut au contraire réorienter toutes nos politiques publiques, locales notamment, vers cette enjeu de plus 4 degrés à échéance 2100. Et pour le territoire donc, de Tours, ce plan local d'urbanisme qui a été révisé hein, récemment encore, enfin pas révisé, il a été modifié récemment, il ne prend pas en compte totalement la question climatique. Et d'ailleurs, on le voit bien, les élus tourangeaux sont assez embêtés avec ce plan local d'urbanisme qui ne correspond pas exactement aux enjeux politiques qu'ils souhaitent porter. Du coup, ça se passe différemment. Là, aujourd'hui, ça se passe par de la négociation, de la discussion avec les différents porteurs de projets pour faire en sorte que le projet, leur projet d'aménagement entre pleinement, intègre pleinement ces questions climatiques. Mais en revanche, le futur plan local d'urbanisme métropolitain va intégrer cette question du changement climatique avec notamment une orientation d'aménagement et de programmation spécifique sur la question du changement climatique. Alors, on ne sait pas encore ses contours exacts, mais c'est un premier point, c'est une première étape.
Juste, pendant des années, le droit de l'urbanisme a abordé les questions de construction, d'utilisation, d'occupation des sols. Et on assiste à un rapprochement, en gros, depuis la loi SRU 2000, 13 décembre 2000, un rapprochement entre le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont extrêmement présents dans les documents d'urbanisme, ce qui explique aussi cette possibilité qui est ouverte, en fait, d'avoir des documents d'urbanisme qui prennent en compte ces enjeux climatiques. Pendant des années, c'était simplement des règles d'implantation, de hauteur, etc. Aujourd'hui, il y a cette possibilité d'avoir des objectifs beaucoup plus larges et ça impose aussi d'imaginer des règles qui soient possibles. Et là, les juristes vont devoir faire preuve un peu d'imagination pour proposer justement de mettre en œuvre des dispositions qui prennent en compte ces enjeux environnementaux.
aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces questions. Malheureusement, comme le disait Victor, l'heure file. Et alors, Thomas Tulier, si d'aventure nos auditeurs ont envie de se pencher sur les avis de la commission en termes de végétalisation et d'albédo, vous l'avez évoqué tout à l'heure, où est-ce qu'ils peuvent aller lire ce précieux document ?
Alors, vous pouvez sur le site du Conseil de développement, c'est codev.tour-métropole.fr, et dessus vous retrouverez toutes les publications qui ont été approuvées par le Conseil de développement.
Eh bien, merci à vous. Alors, merci Corinne Manson, professeure des universités en droit public, spécialiste en droit de l'urbanisme. Thomas Tulier, vous étiez ici présent en qualité de membre du Conseil de développement de Tours Métropole Val-de-Loire et co-animateur de la commission, aménagement du territoire. Merci aussi à Victor Perrin, étudiant en Master 1 droit de l'environnement. Alors, Victor, je crois qu'il y a un concours qui n'est pas terminé encore.
Il y a un concours pour les podcasts que nous avons réalisés avec notre promotion. Et j'encourage tout le monde, évidemment, à voter pour celui sur les îlots de chaleur urbains, qui, en toute subjectivité, est évidemment le meilleur. Et en dehors de ça, non, il y a un concours. Et donc, les auditeurs vont pouvoir voter pour le podcast qu'ils jugent le meilleur. Et nous, en contrepartie, ça nous permet de gagner des petits prix.
Alors, on peut rappeler peut-être quels sont les 5 podcasts. Donc, on a bien compris qu'il y en avait un sur les îlots de chaleur, mais les autres, si...
Alors, il me semble qu'il y en a un sur, vous l'abordiez tout à l'heure, le risque inondation. Il y en a un sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore d'éoliennes en Indre-et-Loire. Il y en a un sur les îlots de chaleur. Et je laisse la parole à M. Tulier, car je ne suis en plus des autres.
Le préjudice écologique qu'on vient d'entendre en début d'émission, je crois.
C'est ça. Voilà, donc votez, rendez-vous sur le site du FacLab aussi pour écouter tous les podcasts. Et il y a même, comme les choses sont bien faites, il y a même le lien où d'un clic d'un seul, vous pourrez aller voter en toute objectivité pour le podcast que vous trouverez le meilleur. Et ça permettra aux étudiants et aux étudiantes éventuellement de gagner un prix. Je vous invite vraiment à aller écouter ces podcasts, ils sont très intéressants. Un mot de la fin, allez, avant qu'on se quitte.
Et bah, peut-être en tant qu'étudiant, j'aimerais remercier Radio Campus et puis nos encadrants qui nous ont permis quand même de réaliser ce qui, moi, me paraît une bonne expérience. En tant que juriste, on n'a peut-être pas forcément l'habitude de faire ce genre de démarche, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça nous permet de faire nos recherches de nos côtés, d'aller voir des professionnels pour nous informer, puis de nous apprendre à faire des recherches. Et donc, je pense que voilà, c'était une bonne initiative qui, dans l'ensemble, nous a plu. Donc voilà, je remercie tous ceux qui sont avec moi autour de la table.
Voilà, je vois des sourires satisfaits autour des micros.
Merci à vous, c'est vrai, merci. Nous, on était ravis de travailler avec nos étudiants, de travailler avec Radio Campus. Et si ça peut profiter à plus de personnes, on ne peut pas espérer mieux.
Effectivement, on peut être fier du travail accompli.
Voilà, donc on le rappelle, allez écouter ces 5 podcasts auditeurs, auditrices sur nos ondes évidemment, mais aussi sur le site du FacLab. Et on va se quitter d'humeur joyeuse en écoutant Carmen Miranda. Cette excellente émission est à réécouter en podcast sur notre site radiocampustour.com et aujourd'hui même à 17h. Bonne journée à tous et à toutes.
Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da poça e o marido é um boçal. Mamã, 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 eu quero.
Mamã,
mamã, eu quero.
Mamã,
mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro Pepe não chorar.
Mamã, 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 eu quero.
Mamã,
mamã, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
E eu olho as pequenas, mas daquele jeito. Tenho muita pena não ser criança de peito. E eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a festa. Não, mamãe, mamãe, eu quero.
Mamãe.
Ai, mamãe, eu quero.
Mamãe.
Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamã, 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 eu quero.
Mamã,
mamã, eu quero.
Mamã,
mamã, eu quero mamar.
Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamã, 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 eu quero. Mamã, eu quero. Mamã, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê.